France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
À 45 ans et après une quinzaine d'années de carrière seulement, il a droit à une rétrospective au Grand Palais à Paris, l'occasion de revoir ses spectacles et son univers tendre et fragile. Mohamed El Khatib sera mon invité à partir de 13h. Et pour bien commencer la semaine, rien de tel qu'une petite séance de critique. Aujourd'hui, on parle de spectacle vivant avec l'incontournable chorégraphe israélien Ofez Schechter qui livre sa nouvelle création Red Carpet à l'Opéra de Paris, et puis Alain Françon qui reprend sa seconde surprise de l'amour de Marivaux au théâtre de la Porte Saint-Martin. Vous écoutez les Midis de Culture, c'est bien. Continuez. Et je vous présente les critiques du jour. Marie Sorbier, productrice du Point Culture ici même et rédactrice en chef de IO.
Bonjour Marie.
Bonjour. Laura Capel, critique au New York Times et professeure associée à la Sorbonne Nouvelle. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à toutes les deux.
Il s'agit de capturer une émotion par le son et voir les manifestations physiques à travers le mouvement et le mettre ensemble. Mais la musique continue à être développée tout au long du processus. Je peux être inspiré par la musique et puis après, je vais voir la danse, revenir à la maison parce que j'ai enregistré ça en vidéo. Donc c'est vraiment une relation symbiotique. Et c'est ce que j'aime. Il y a vraiment une expérience très compacte, puissante, où tout ça devient un en essence. Il y a un échange entre l'image et le son.
La voix du chorégraphe Ofez Schechter, on commence avec sa nouvelle création et c'est la première fois que le chorégraphe israélien installé à Londres depuis plus de 20 ans crée un spectacle pour une autre troupe que la sienne, en l'occurrence le ballet de l'Opéra de Paris. Voici donc Red Carpet, tapis rouge, un spectacle dont le décor et l'ambiance s'inspirent directement des rideaux sang et or de l'Opéra Garnier. Sur scène, 13 danseuses et danseurs embarqués pendant une heure dans une sarabande fiévreuse entre nuit du cabaret berlinois des années 20 et rave party contemporain. La musique qui navigue entre techno et folklore est composée par Schechter lui-même. Ofez Schechter, rappelons-le, vient d'être nommé co-directeur du festival Montpellier Danse et du Centre chorégraphique national de Montpellier. On commence avec quelques mots rapides. Laura Capel.
Alors pour moi, Ofez Schechter fait du Ofez Schechter. Son style est très efficace entre danse folklorique et clubbing. Mais sur cette création Red Carpet, je ne le vois pas vraiment faire de pas en direction de ses interprètes, à savoir les danseurs du ballet de l'Opéra et la spécificité de cette compagnie.
Marie Sorbier.
Alors moi, j'aime beaucoup le travail d'Ofez Schechter, que je suis avec assiduité dès qu'il se présente, parce que je trouve qu'il a quelque chose de très particulier, c'est que c'est une danse qui travaille beaucoup les émotions. Moi, c'est ce que j'aime particulièrement dans la danse. Et là, on le retrouve, et c'est exactement ce que dit Laura, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement toute la grammaire d'Ofez Schechter, donc il n'y a pas de surprise. Par contre, il y a un vrai plaisir de spectateur. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant cette heure, et j'ai partagé avec eux une espèce de moment de transe que j'ai trouvé très, très agréable à vivre.
Alors, Laura Capel, la grammaire d'Ofez Schechter, c'est quoi?
Alors, c'est un style assez facilement reconnaissable. En fait, le bassin est assez bas, un peu tiré vers le sol, en contraction au niveau du haut du corps, et en même temps avec des bras qui parlent beaucoup, il y a beaucoup de gestes qui semblent donner, on va dire, les paroles d'Ofez Schechter. Il y a beaucoup de références à la danse folklorique israélienne qui est sa grammaire de base, en fait. Enfin, il en vient. Et en même temps, dans des ambiances qui touchent aussi donc à la transe, comme le disait Marie, à des ambiances de club, de rave. On retrouve vraiment tout ça. Et aussi l'importance du collectif. Parce que Schechter, vraiment, son travail porte sur le collectif. Là, on a des danseurs à l'Opéra de Paris qui ne sont que des danseurs du corps de ballet plus un premier danseur soliste. Il ne met pas en avant d'étoiles, de danseurs ou de danseuses particuliers. Ce qu'il cherche, c'est l'énergie de ce groupe, et on le retrouve dans Red Carpet.
Alors, vraiment. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ces bras qui bougent et qui parlent?
Alors justement, j'ai trouvé que pour une fois, il y avait quelque chose de très cohérent. En tout cas, le propos m'a semblé très clair. J'ai eu l'impression que Schechter, ça lui plaisait bien, ce thème de Red Carpet. Il le dit dans la note d'intention, que c'est quelque chose qui lui parle, parce que quand il tourne, il passe dans plein d'endroits avec des tapis rouges, et que pour lui, tapis rouge n'égale pas forcément paillettes. paillettes ou chic ou luxe parce que bah il y a plein de tapis rouges un peu délavés et que le tapis rouge peut perdre aussi de sa superbe. Et je trouve qu'il le retranscrit particulièrement bien dans cette mise en scène, c'est-à-dire qu'on commence avec 3 ouvertures de rideaux. Alors évidemment, on est à l'Opéra Garnier. Alors l'Opéra Garnier, on est en rouge et or, vous l'avez dit Marie, c'est exactement ça. Il s'en sert, il est très malin avec ça, on est dans tous les codes de ce que peut faire une soirée de gala. Et donc, il y a 3 fois le rideau rouge qui s'ouvre. On s'enfonce comme ça dans la scène de plus en plus profond jusqu'à découvrir les musiciens, puisqu'il y a des musiciens en live qui sont là avec les danseurs, et un lustre immense qui descend de temps en temps sur scène et qui est là. Donc on est dans tous les codes du tapis rouge, sauf que, et c'est là où je le trouve quand même assez malin, ce qu'il dit de ce tapis rouge, c'est pas simplement la fête, c'est pas cette simplement une espèce de décadence un peu joyeuse qu'on voit d'ailleurs au début de la pièce. Il y a tout un processus où il va débarrasser les danseurs de ces oripeaux. Alors, oripeaux, je le mets un peu entre guillemets, parce que c'est quand même Chanel qui signe les costumes.
Oui,
hein.
C'est pas mal voilà. Comme oripeaux.
C'est pas
oui.
mal, mais je trouve ça malin de sa part de les avoir aussi enlevés, un peu jetés par terre. Les danseurs se déshabillent au fur et à mesure, comme si finalement on partait d'une fête très branché, très chic, très clubbing, et qu'on finit avec un corps de ballet quasiment. Alors ils sont pas nus, ils ont des juste au corps, mais couleur peau. Donc on se retrouve avec des corps, voilà,
dépouillés,
à vue,
en tout cas, oui.
Exactement, et complètement dépouillés. Et j'ai trouvé que dans cette démarche là, dans cette désacralisation et de la fête et du tapis rouge, il y avait quelque chose d'assez émouvant. Moi, c'est une pièce qui m'a procuré de l'émotion.
C'est drôle parce que ce dispositif, je le trouve très intelligent, mais il m'a pas ému du tout. Enfin, c'est-à-dire, effectivement, on a cette, on voit très bien, ok, d'accord, on va aller vers aussi les coulisses presque, ils vont enlever leur robe de soirée, on va aller vers une forme de nudité émotionnelle potentielle. Ouais. Sauf que pour moi, on les voit jamais réellement, ces émotions. C'est-à-dire, la danse change très peu. Elle ralentit. Par moments, on les voit faire les mêmes gestes, mais de manière plus ondulée, un petit peu plus lente. Parfois, par moments, se retrouver par deux, mais c'est vraiment assez fugace. Et finalement, j'ai pas l'impression de voir une progression dans la dramaturgie de cette pièce. C'est-à-dire, c'est un peu évident, quoi, le lustre sur scène qui est en miroir du lustre du Palais Garnier. Il y a un moment où je me suis dit qu'il allait aller vers quelque chose de théâtralement un peu plus abouti quand un rideau se referme et une des danseuses s'avance et en fait reste vraiment à l'entrée du rideau, enfin à l'ouverture du rideau. C'est une danseuse qui s'appelle Ida Wikinkowski, qui est une très bonne une très bonne actrice également, qui a joué beaucoup de rôles à l'opéra. Et en fait, elle reste debout, elle ne bouge pas, et on pense qu'il va peut-être se passer quelque chose, là justement sur le plan théâtral, et en fait il ne se passe rien. Elle repart, et on recommence. Ah. Et finalement, j'ai l'impression de voir Ophèche Schechter s'enfermer aussi dans son processus de création qui est très très rodé. Il a eu 50 ans cette année, on le connaît depuis 15 à 20 ans aujourd'hui, on sait ce qu'il fait. Il compose aussi toujours ses propres musiques, ça c'est significatif, parce que du coup il compose des boucles musicales, où effectivement on voit les musiciens sur scène, mais ça l'amène à la répétition presque par définition, par la structure qu'il crée lui-même. Et finalement, il prend aucun risque, enfin pour moi, dans cette pièce. Ok, les danseurs sont effectivement perdent leur robe, mais bon, au final, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus que ça ?
Sur la musique aussi, peut-être, Marie.
Oui, la musique, elle est essentielle dans le travail d'Ophèche Schechter parce qu'il était musicien avant d'être danseur. On peut en tout cas le dire comme ça. Lui se définit comme ça et il dit même que il s'est mis à chorégraphier pour mettre en valeur la musique qu'il composait. Donc il voit un peu les spectacles à l'envers. La musique, elle est essentielle. Je suis d'ailleurs très triste qu'on n'ait pas pu écouter un bout de musique, mais l'opéra ne nous a pas fourni un extrait sonore parce que c'est quand même, ça donne tout de suite la couleur, l'image et l'ambiance de ce qu'il fait. Et en effet, Laura, vous l'avez dit, ce sont toujours des boucles. Donc, oui, la répétition, elle est inhérente à tous ces spectacles puisqu'on est enfermé avec lui dans une boucle sonore qui évolue assez peu, on peut dire, que moi, j'ai trouvé assez efficace quand on veut générer de la transe. C'est ce qu'il me semble qu'il essaie de faire avec le public, c'est-à-dire qu'une fois qu'on accepte de rentrer dans cette boucle-là, moi j'étais totalement avec lui, c'est-à-dire j'ai eu un phénomène physique assez étrange et que j'ai pas vu le temps passer, mais c'est pas une expression. Enfin, entre le début et la fin du spectacle, c'est comme si le temps avait disparu et j'ai juste été complètement happée par un moment. Alors je comprends très bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Ils sont en groupe, ça danse, on retrouve les mêmes gestes un peu tout le temps, et pourtant, moi, c'est justement cette répétition et ce même répété un peu ad libitum avec cette espèce de décadence finalement finale ou dépouillement, je sais pas dans quel sens on peut le dire, qui m'a, moi, mis dans cet état de transe avec cette musique assez forte, complètement enveloppante, comme un tissu qui nous enroberait en plus de tous ces tissus qu'on enlève. J'ai trouvé ça très enveloppant et pour une fois, la transe a marché. Ça marche pas toujours les spectacles de transe sur moi et là, je suis partie complètement avec eux.
Laura Capel, on disait les pièces de Dofa Schlechter, les chorégraphies sont entrées au répertoire de l'Opéra National de Paris. Là, c'est différent. Là, c'est pas du tout la même façon de travailler.
Effectivement, c'est une création. Les trois précédentes pièces étaient des entrées au répertoire, c'est-à-dire des pièces qu'il avait créées pour sa compagnie, que l'opéra a reprises en 2018-2019. Il avait fait une autre création quand même, je précise, par rapport à l'introduction pour le Royal Ballet à Londres en 2015, mais qui était une pièce courte. Là, c'est vraiment une soirée complète d'1h15. Bon, alors, une soirée complète d'1h15, on pourrait aussi se demander si ça justifie vraiment des billets en première catégorie à 140 euros, mais ça, c'est un autre sujet.
C'est important de le dire aussi.
Voilà. effectivement, le fait que ce soit une création chez moi, ça crée forcément une attente de rencontre avec la compagnie. Et j'ai l'impression que cette pièce, mis à part les éléments scénographiques qui effectivement jouent sur les codes du Palais Garnier, elle aurait pu être faite pour d'autres danseurs en fait. Enfin, ces danseurs qu'on connaît bien de l'opéra, ils sont capables de beaucoup de choses sur le plan théâtral et finalement, leur personnalité ressort pas tellement. Enfin, alors ça fait partie encore une fois du système de Schlechter, enfin évidemment, mais ce serait l'occasion aussi quand on rencontre ce type d'interprète, peut-être de faire un pas de côté et de se dire pourquoi ne pas aller dans une direction un petit peu différente par moment. Et j'ai l'impression qu'on a des chorégraphes parfois aujourd'hui sur la scène contemporaine qui développent un système et qui décident de l'appliquer partout où ils vont. C'est un peu triste en fait, enfin, c'est-à-dire c'est bien aussi parfois de se laisser la possibilité de faire quelque chose de différent face aux interprètes vivants qu'on rencontre et aux personnalités qui sont en face de nous.
Je vais bien revenir là-dessus, je vous donnerai la parole ensuite Marie, mais Laura Capel, sur la spécificité des danseurs de l'Opéra de Paris, quelle est-elle ?
Par exemple, ils traversent énormément de techniques. Donc, ils ont des possibilités physiques qui sont un petit peu différentes de celles des danseurs d'Ofel Schlechter, mais c'est tout à fait normal. Les danseurs qui travaillent avec Schlechter toute l'année maîtrisent parfaitement la grammaire de Schlechter, mais ne sont pas formés à traverser du Pinabauch, des grands classiques du 19e siècle, etc. Par ailleurs, ils traversent des choses sur le plan théâtral dans d'autres pièces qui, là, ne sont pas tellement exploitées. C'est-à-dire, ils savent aussi jouer des rôles, jouer aussi des formes de dramaturgie très contemporaines. Je parlais de Pinabauch. On aurait pu tout à fait en tirer des choses, en fait, dans cette pièce, par rapport à ce jeu sur la mise en scène de soi et les coulisses, en fait, presque, de cette mise en scène et cette espèce de, peut-être, de vide que ça peut générer à certains moments. On aurait pu en sortir des personnalités et nous donner des pistes presque théâtrales pour aller un petit peu plus loin que la surface du mouvement, pour moi.
Voilà. Marie ?
Oui, je suis tout à fait d'accord, en fait. On a l'impression, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais on a l'impression que ça pourrait être n'importe quel danseur. C'est-à-dire que ce qui l'a intéressé, il me semble, c'est pas qu'il travaille avec les danseurs de l'Opéra de Paris, il a un projet en tête. Je pense que c'est quelqu'un qui sait exactement où il veut aller et tout doit être dans sa tête avant de commencer à répéter. Il doit savoir là où il veut arriver et c'est ce qu'il a produit. C'est-à-dire que on est presque sur une œuvre d'un plasticien à des moments. Il faut quand même souligner le travail des lumières que j'ai trouvé incroyable. Il s'appelle Tom Visser. Et il a voulu aller dans une espèce d'ambiance un peu cabaret aussi. Donc, c'est très léché. C'est très esthétiquement poussé. Alors, les curseurs sont vraiment poussés à fond. Et c'est vrai que on voit la danse comme étant une entité. C'est-à-dire, il y a un groupe de danseurs. En effet, ils s'individualisent pas ou quasiment pas, ou en tout cas, on ne les retient pas en tant que danseurs, mais en tant que groupe. Et ce qui l'intéresse, c'est l'énergie. C'est la seule chose qui l'intéresse dans ces danseurs-là. Donc évidemment, je comprends quand Laura a dit, c'est un peu comme si on les avait gâchés, entre guillemets, parce qu'ils sont capables de mille fois plus que ce qu'ils montrent là, mais je crois que c'était vraiment l'intention du metteur en scène et qu'ils ont, eux, respecté les intentions du chorégraphe, j'imagine.
Laura.
Après, je pense que du coup, cette pièce aurait presque mieux fonctionné dans une soirée avec une autre pièce, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle une soirée mixte, en fait, dans les ballets, une soirée de plusieurs pièces. Et c'est vrai que ces dernières années, à l'opéra, il y a eu une tendance à aller vers des créations contemporaines de soirées complètes, donc d'1h, 1h30, qui sont un petit peu en contraste avec le reste du répertoire. On a souvent des ballets de 2-3 heures. La saison prochaine, du coup, José Martinez, le nouveau directeur de l'opéra, enfin, nouveau, c'est pas si récent, mais maintenant, on va dire que la programmation va être 100% la sienne à partir de la saison prochaine, revient plus vers ce format de une ou deux pièces existantes plus une création, qui, je pense, donne justement un meilleur aperçu de aussi l'étendue des capacités d'une compagnie et met en regard le travail de plusieurs chorégraphes. Ce qui est l'intérêt d'être dans une compagnie de ballet, en fait, comme celle de l'opéra, plutôt que d'avoir une soirée entière de Schlechter, à la limite.
Comment elle s'inscrit dans ce qu'il fait Schlechter depuis le début, cette pièce ?
Ah, c'est vraiment lui, j'allais dire, c'est du 100% Schlechter. On peut pas faire plus Schechter que cette pièce-là. Si on devait la caractériser, c'est ça. Il y a tout. Et je voulais juste revenir en dernier mot sur les bras, puisque vous l'évoquiez au début, Laura.
Moi, les bras qui parlent, elle a dit. J'aime bien cette expression.
Les bras qui parlent, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des pièces où le propos, quand je disais, est très clair, mais parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de danser, ça rend intelligible. Enfin, c'est très intelligible pour tout le monde. On voit parfaitement ce qu'ils sont en train de faire. Et en effet, c'est les bras qui expriment le sens. Et il y a un mouvement qui revient plein de fois, notamment avec les mains, des mains qui vibrent comme des ailes de papillon. Et c'est très beau parce que le bas du corps est en effet très ancré. C'est quand même une danse très terrienne. Hein. Les danses israéliennes contemporaines, il y a quelque chose de relié au sol. Mais les bras, eux, tutoient le ciel tout le temps. Et donc, je voyais une espèce de désir de transcendance qui était évidemment pas abouti parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais cette volonté de voir les doigts de ces danseurs de l'Opéra de Paris essayer de se tendre vers le ciel, ça fait partie des choses qui m'ont émue.
Red Carpet d'Ofech Schechter, c'est donc jusqu'au 14 juillet à l'Opéra de Paris.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Et on enchaîne avec la seconde surprise de l'amour de Marivaux, évidemment mise en scène par Alain Françon. C'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. C'est une reprise d'un spectacle monté initialement au Théâtre de l'Odéon aux ateliers Berthier en 2021. Bon, petit rappel de l'histoire écrite en 1727. Une marquise éplorée, tout juste mariée, déjà veuve, voisine un chevalier qui lui est affligé par l'entrée au couvent de son épouse. Ces deux-là vont se rapprocher sans réussir à s'avouer l'amour naissant, alors que tout autour, tout n'est que complot et calcul. Pour Alain Françon, ce sont les mots qui nous sauveront. Ils sont au cœur de ce spectacle où l'amour triomphe. On commence avec un avis rapide. Marie Sorbier.
C'est pas mon texte préféré de Marivaux, donc j'y allais aussi parce que je sais que Françon est un fin lecteur et devenu, en tout cas au fil des décennies, un très fin lecteur de ses pièces classiques. Et en effet, on n'est pas déçu quand on y va avec cette optique-là. Il a lu cette pièce, mais vraiment comme un lecteur devrait le faire. C'est-à-dire que je l'ai entendu comme peut-être jamais je l'ai entendu, d'une clarté limpide. Après, c'est du Alain Françon, là aussi, dans le pur jus, donc c'est très propre, c'est intelligent, mais c'est un peu lisse.
Laura Capel.
Oui, on y va effectivement pour le plaisir du texte et de retrouver Marivaux qui n'est pas tant donné en fait à l'heure actuelle sur les scènes théâtrales. Mais j'avoue qu'effectivement cette mise en scène est très sage aussi, enfin très belle, mais très sage, et qu'il y a eu quelques petits endormissements autour de moi.
On va continuer à en discuter. D'abord, on écoute un petit extrait de cette seconde surprise de l'amour.
Monsieur, qui est-ce qui vous empêche de partir ? Est-ce Madame la Marquise ?
Oui.
Et nous ne changeons point de maison.
Pourquoi en changer ?
Oh ! Me voilà perdu.
Ah bah comment donc ?
Vos maisons se communiquent. De l'une, on entre dans l'autre. Je n'ai plus ma maîtresse. Madame la Marquise est une femme de chambre tout agréable. De chez vous, j'irai chez elle. Crac ! Me voilà infidèle tout de plat-pied. Et cela m'afflige. Pauvre Marton !
La seconde surprise de l'amour mise en scène par Alain Françon au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Marie Sorbier, alors quelle lecture fait-il, puisque vous le décrivez en grand lecteur, cet Alain Françon?
Eh bien, je crois, il a monté Marivaux quand il était jeune, donc il y a peut-être 30 ans. Il revient aujourd'hui et il dit lui-même qu'il a compris les pièces de Marivaux sur le tard, enfin plutôt aujourd'hui qu'avant. Et il a compris cette chose-là, c'est que avant, il se demandait tout le temps ce que les personnages étaient en train de faire, ce qu'ils venaient de faire, dans quel contexte ils évoluaient. Or, aujourd'hui, il dit que Marivaux, en fait, il faut faire 100% confiance au texte et que la pièce repose uniquement sur ce que Marivaux a écrit et que le contexte, on s'en fout. Il met exactement ça sur scène, c'est-à-dire que il y a une scénographie très classique, une toile peinte au fond qui représente une forêt, deux petits escaliers à cour et à jardin, on comprend qu'on est dans une demeure de maître, point barre, et des chaises qui changent un peu de place. C'est tout, la scénographie n'évolue pas, les lumières n'évoluent pas non plus, le décor ne bouge pas, les comédiens ne bougent pas trop non plus, hein, y a quelque chose d'assez statique, parce que ce qu'il veut faire, c'est rendre intelligible la moindre phrase. Alors au début, je sais pas si ça vous a fait ça, Laura, mais quand même les 10 premières minutes, notamment quand la marquise, donc Georgia Scalette, qui est une grande comédienne, prend la parole et sort ses premières répliques, donc elle est complètement affligée, elle est triste, son mari est mort il y a 6 mois, elle est dans le chagrin, elle est pas coiffée, elle est bien en noir, elle est pas maquillée, enfin bon, rien ne va, quoi. Elle déplore. Et elle dit son texte de façon complètement monocorde, atone, et toutes les syllabes sont presque un peu comme ça découpées. Donc il y a eu un moment d'étrangeté, parce que c'est quand même Marivaux, donc on ne s'attend pas à quelque chose d'aussi lourd. Et en fait, Ces 5 premières minutes passées, on comprend très bien ce que le metteur en scène a donné comme direction de jeu aux acteurs, c'est-à-dire que chaque réplique, mais quand je dis chaque réplique, c'est chaque mot, doit être intelligible et doit être passé au public. Donc, ils explicitent, ils donnent un ton, une émotion, un sens à chaque mot. Alors évidemment, ça ralentit un peu la langue, mais je suis forcée de constater qu'il a rendu pour moi, en tout cas, cette pièce très claire. C'est ce que je disais un peu en introduction, c'est pas ma pièce préférée de Marivaux. Je trouve l'intrigue quand même assez courte, c'est-à-dire qu'on la comprend très vite, il n'y a pas non plus 1000 rebondissements. Hein. Et là, il en fait ressortir non pas le côté drôle, qui est presque un peu amoindri, on ne rit pas non plus beaucoup hein, dans cette pièce-là, version Françon, mais il la rend très psychologique, presque, il en dévoile un peu comme ça, avec beaucoup de délicatesse, toutes les nuances. Mais le résultat est certes une lecture de la pièce, je trouve, au cordeau, mais quand même, théâtralement, on s'ennuie un peu parce que il se passe pas grand-chose. Quoi. Mm-hmm.
Laura Capel ?
Oui, je suis d'accord avec vous, Marie, c'est une pièce un petit peu inégale. La fin est très abrupte, par exemple. Il y a des moments où, en fait...
Ça ne finit pas, oui.
Exactement. Les sentiments ont peu de temps pour se déployer et la manière dont ils se concentrent sur le texte fait que, du coup, on a l'impression qu'il y a très peu de spontanéité dans ce spectacle. Alors, bon, la spontanéité est souvent, une illusion au théâtre, mais malgré tout, les acteurs sont tellement concentrés sur le fait de donner ce texte à 100% que parfois ça en est presque un petit peu artificiel, en fait, dans leur manière de le dire. Il y a peu de place pour des moments un petit peu de blanc, d'émotions entre eux, pour les sentiments amoureux qui naissent également. Alors, par contre, les répliques de Marivaux sont dites, mais avec, parfois avec merveille de timing, et certaines sont incroyables. Ça nous rappelle l'esprit vraiment de Marivaux, qui, comme je le disais, en fait, est assez peu donné aujourd'hui, mis à part à la Comédie française, peut-être, mais c'est un auteur qui n'est pas particulièrement en vogue aujourd'hui. On se dit que c'est un petit peu dommage en entendant cette pièce, parce que c'est aussi un très bel exercice, en fait, de texte. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu pesant. Alors, il joue aussi ce spectacle depuis 4 ans maintenant, enfin pas de manière continue, mais ce n'est pas une création, ce spectacle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu installé aussi dans le temps, dans la manière de proposer le texte, qui fait que du coup, on a perdu dans la relation entre les personnages ? Moi, c'est vrai que cette relation amoureuse entre Georges Escalet en marquise et en chevalier Pierre-François Garrel, bon, enfin... Ils le disent très bien, mais...
Elle procure pas beaucoup d'émotions.
Ça procure effectivement pas énormément d'émotions. C'est un petit peu surligné, on va dire, à tout moment, ces allers-retours.
Donc c'est un spectacle cérébral où on joue peu ?
Ça joue, mais ça joue dans une seule direction. C'est-à-dire, ça joue uniquement au service du texte et pas dans le plaisir du jeu. Mmh. Voilà. C'est quand même quelque chose d'extrêmement maîtrisé. Et donc la maîtrise, parfois, ça enlève... toute l'émotion et toute la générosité du théâtre. Alors, je pense que pour quelqu'un qui n'a peut-être jamais entendu un Marivaux, c'est peut-être une première bonne porte d'entrée parce qu'on comprend bien ce que ça veut dire un marivaudage. Par exemple, on voit bien les liens, les intrications entre les personnages. Et surtout, ce que je trouve que Françon a appuyé assez justement et qui m'a plu dans sa mise en scène, c'est que j'ai eu l'impression que très délicatement, il mettait finalement le couple de valets devant... ce couple d'aristocrates, donc on a la marquise et le chevalier qui se disent amis, et il faut surtout pas prononcer le mot amour parce qu'ils sont tous les deux très tristes, mais en fait tombent amoureux mais ne se le disent pas. Et puis il y a le couple de valets qui eux sont beaucoup plus lucides, ils sont beaucoup plus intelligents en fait que tous les autres personnages de la pièce, et ils voient très bien ce qui est en train de se passer. Donc les répliques sont évidemment beaucoup plus enlevées, beaucoup plus vives, beaucoup plus drôles, mais Françon les met, je trouve, de façon très élégante devant, sans que ce soit superficiel ou artificiel ou contemporain. Et ça, je trouve ça assez juste. Et donc les personnages des valets sont presque plus... émotionnel, il procure beaucoup plus de choses que les personnages principaux.
Laura Capel,
ouais. Ouais, mais bizarrement, même dans leur manière de jouer, il y a très peu de comique. En fait, enfin, c'est vrai que les valets ont quelque chose aussi assez sombre. Ce qui fonctionne, enfin, dans l'économie de cette pièce, c'est aussi complètement, en accord avec ce qui se passe autour d'eux. Alors, je voulais juste noter quand même cette très belle toile de fond, une toile peinte, ce qui est assez rare à l'heure actuelle, peinte par Jacques Gabel. C'est vraiment un type de décor qu'on a peu.
Qu'on a plus. Oui.
Aujourd'hui, qu'on n'a plus du tout. C'est très agréable de voir aussi la manière dont les lumières la mettent en valeur. Pour le coup, le reste de la scénographie semble vraiment un peu palote à côté. Enfin, on a juste des murs très simples, bon, des deux côtés de la scène. Il y aurait quelque chose là qui pourrait être de l'ordre d'une poésie un petit peu douce obscure, enfin entre ce fond et le jeu des personnages, et où bon bah on s'ennuie un petit peu. Il y avait effectivement des yeux fermés autour de moi.
Oui, ce que vous disiez, des gens qui ont dormi un petit peu.
On a entendu un petit ronflement rapidement interrompu heureusement par sa voisine.
C'était peut-être la sieste du dimanche.
Voilà, c'était effectivement une matinée du dimanche, donc je pense qu'il faut blâmer ça effectivement.
Marie Sorbier.
Oui, il y a dans la mise en scène, quand je parlais de délicatesse, je trouve que c'est vraiment ça, mais ça c'est le travail d'Alain Françon, c'est-à-dire qu'il est très en retrait, il s'impose pas comme metteur en scène. Encore une fois, c'est le texte qui est premier, lui est un peu derrière, à part cette direction d'acteur qu'on reconnaît quand même de façon très claire. Il a ce truc de mise en scène qui moi me plaît de plus en plus, c'est que sa seule ponctuation, c'est quelques notes de musique. Alors, il y a pas de musique du tout, mais quand il y a une réplique, j'imagine, qui veut mettre en valeur, ou entre deux scènes, ou à des moments très étranges de la pièce, on entend mais vraiment trois notes, comme tapées sur un xylophone, qui ponctuent. Et là, bah, les gens endormis se réveillent, mais, mais les autres, c'est une façon aussi de faire tendre l'oreille assez intelligemment. C'est pas le gros surlignage, attention, là il y a un moment important, faut écouter ce qu'elle dit. C'est juste qu'il y a l'oreille qui s'y prête et hop, d'un coup, on réécoute un peu plus la phrase d'après, on regarde ce qui se passe. Moi, j'aime bien cette petite ponctuation comme ça, un peu douce. Alors en effet, c'est très désuet, je crois que c'est le terme qui convient bien à ce spectacle. Moi, ça m'a pas dérangé, le désuet me gêne pas, mais on peut pas dire qu'il est, en fait c'est du classique, voilà. Si je résume, c'est quand même une grosse, un classique monté classique, quoi.
Laura Capel.
Et puis il y a vraiment des plaisirs à ça, hein, effectivement, enfin c'est-à-dire c'est quand même un spectacle qui a de grandes forces, et notamment la relation qu'Alain Françon a développée maintenant avec Georges Escalier, alors qu'il connaissait déjà à la Comédie Française, qui est dans plusieurs de ses dernières mises en scène, qui a fait son autre Marivaux récent, les fausses confidences, et c'est une actrice très particulière en fait, enfin qui a une manière de dire les textes à laquelle il faut un petit peu s'habituer au début, c'est-à-dire qu'elle a tendance souvent à passer d'une phrase à l'autre sans pause, en fait, enfin, à créer des espèces de lignes lisses entre plusieurs phrases avant de s'interrompre et de laisser la place à quelque chose qui est soudain qui ressort du texte. Et je pense que là, avec Françon, ils se rencontrent en fait, enfin, tous les deux, parce qu'ils ont tous les deux un sens de chercher ce qu'il faut mettre en valeur dans le texte et un rythme qui peut être très variable au fil des répliques et assez déroutant, en fait, d'une certaine manière.
C'est une comédienne aussi qui est quand même très puissante, quand même, sur scène.
Oui. Et on l'entend particulièrement bien à la fin de la pièce, parce qu'autant au début, en effet, il y a ce côté très monocorde et très compact de son texte, mais qui va avec ce qu'elle imaginait de son personnage. Mais à la fin, c'est la seule qui a des éclats. C'est-à-dire qu'autant tous les autres personnages restent dans leur rôle, il y a quand même des couleurs très claires pour chacun des personnages, il n'y a pas beaucoup de variations. Elle varie. C'est-à-dire qu'à la fin, alors qu'on est dans ce truc très, voilà, très aristocratique, personne, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, c'est des jolies phrases qu'on se balance, même quand c'est des vacheries, mais on le dit comme il faut. Il y a deux, trois fois où elle va élever la voix, sur des répliques très précises. Et encore une fois, exactement comme la ponctuation musicale, c'est ce qui permet, en fait, de réveiller tout ça et de comprendre là où Françon veut mettre l'accent. Et ça, c'est plutôt un talent d'actrice particulier d'arriver à faire ça.
Et de trouver des notes comiques, en fait, enfin, sur certains, effectivement, parce qu'elle arrive à être drôle parfois avec certains de ses éclats, alors même que le reste est plutôt posé, de manière générale. Donc c'est aussi sa force. Très agréable.
La seconde surprise de l'amour de Marivaux, mise en scène par Alain Françon au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. C'est jusqu'au 13 juillet. Merci beaucoup Marie Sorbier, merci beaucoup
merci.
Laura Capel d'être venue dans les midis pour partager vos goûts pour le théâtre et la danse. Aujourd'hui, toutes les infos sont sur la page des Midis de Culture. Vous qui nous écoutez maintenant, c'est à vous de vous faire une idée.